Le cercle rouge de Edgar Wallace. Chapitre 34. L'ambition du cercle rouge. En arrivant à Londres, Jack Beardmore et l'inspecteur Parr trouvèrent les journaux pleins de commentaires sur l'événement du jour. Même en résumé et tel que l'a présenté un bref communiqué officiel, l'affaire était bien de nature à soulever une vive émotion dans le public. En effet, dans la matinée, tous les membres du gouvernement avaient reçu un document dactylographié et dépourvu de toute adresse ou indication autre que le cercle rouge apposé sur chaque feuillet. Ce document portait « Tous les efforts de votre police, tant officielle que privée, l'habileté de Derrick Yell, aussi bien que la persévérance du chef de la sûreté, M. Parr, ont été impuissants à nous faire échec. Et toutes nos opérations réussies ne sont pas encore connues. Nous avons été malheureusement contraints d'enlever la vie à plusieurs personnes. Et cela non dans un esprit de vengeance, mais pour servir de salutaire avertissement aux autres. Ce matin encore, nous avons été dans la douloureuse obligation de détruire l'existence de M. Samuel Eggit, homme d'affaires, dont la curiosité stimulée par M. Harvey Froyant nous avait approché de trop près. Heureusement pour ses collègues et employés, il avait entrepris personnellement son enquête, de sorte qu'il devait seul disparaître. On trouvera son corps au bord de la ligne de chemin de fer entre Marsden et Brixton. Puisque la police est impuissante et que nous constituons, comme on le dit, un péril public des plus graves, nous avons décidé de cesser notre activité sous condition qu'1 million de livres sterling nous soit versé. La manière dont ce versement sera opéré sera réglée ultérieurement. Il devra en tout cas être accompagné d'une amnistie complète et en blanc, de sorte que si l'occasion le nécessitait ou si, par la suite, notre identité venait à être découverte, nous puissions être entièrement couverts par ce document. Un refus opposé à notre proposition entraînerait de très graves conséquences. Nous donnons ci-dessous les noms de 12 parlementaires éminents qui nous serviront d'otages. Si, à la fin de la présente semaine, le gouvernement n'a pas pleinement accepté nos conditions, l'un de ses représentants de la nation mourra. Au bureau de la préfecture, Yell fut la première personne qu'aperçut Parr. Le détective privé, contre son habitude, paraissait soucieux.
« Je craignais un coup de ce genre, » dit-il. « Et le plus ennuyeux est que cela se produit au moment où je pensais mettre la main sur le principal meneur de la bande. »
Il serra la main de Parr et ajouta « Et dire que je devais passer la journée à la pêche !»«
C'est vrai. À propos, c'est aujourd'hui que vous deviez mourir. » »« Il est vrai que le cercle arrête ses opérations contre les particuliers. »
Yell sourit.
« Je suis venu vous assurer, dit-il, que je me mets entièrement à votre disposition. Avant que vous n'assistiez aux délibérations du Conseil, vous devez être informé que le gouvernement a, dit-on, l'intention de m'attribuer un poste officiel et de me confier l'affaire du Cercle Rouge. J'ai déjà été pressenti et j'ai formellement refusé. Je suis convaincu que vous êtes mieux à même que quiconque de poursuivre l'enquête, et je ne veux d'autre chef que vous.
Merci, dit Parr simplement. Mais peut-être le conseil en décidera-t-il autrement.
Le conseil des ministres se réunit dans le bureau du secrétaire d'État. Les membres du gouvernement ayant tous reçu le message du Cercle Rouge, aucun ne manquait à cette mémorable séance. Il se passa un certain temps avant qu'on ne fît appeler les personnalités convoquées. Ce fut Yale qui fut introduit le premier. Puis, un quart d'heure plus tard, ce fut le tour de Parr. Il connaissait de vue la plupart des grands personnages rassemblés là. L'impression générale d'hostilité qu'il ressentit en entrant s'accrut encore au léger signe de tête que le Premier ministre lui adressa en réponse à sa révérence.
« Monsieur Parr, »
dit le Premier ministre d'une voix glacée. « Nous délibérons en ce moment au sujet de l'association de malfaiteurs connue sous le nom de Cercle Rouge et qui est en train de devenir un danger public. Son audace, qui ne connaît plus de bornes, est allée jusqu'à envoyer à tous les membres du gouvernement une menace écrite que vous avez sans doute déjà lue dans les journaux.
« Oui, monsieur le Premier ministre. » Je ne vous cacherai pas que nous sommes très mécontents de la façon dont vous vous êtes acquitté de votre tâche. Bien que toute facilité vous ait été accordée, que des pouvoirs spéciaux vous aient été conférés, en particulier celui... »
Il consulta un papier placé devant lui, mais le chef de la sûreté l'interrompit.
« Je vous demande pardon, monsieur le ministre. » Mais il n'est pas prudent d'indiquer à haute voix quels sont les pouvoirs spéciaux que j'ai reçus.
Le chef du gouvernement resta un instant interloqué.
« Fort bien, » reprit-il. « Je peux dire cependant que d'une façon générale, vous avez joui d'extraordinaires privilèges en vue de l'accomplissement de vos missions. Vous avez eu de nombreuses occasions que vous avez manquées. Vous avez même été présent lors d'un attentat, et vous n'avez rien pu ou su empêcher. »
Parr s'inclina.
Notre désir était de confier officiellement cette affaire à M. Derrick Yale, qui a réussi par deux fois à arrêter l'auteur d'un crime attribué au Cercle Rouge, sans toutefois arriver à en découvrir l'instigateur. Cependant, M. Yale n'accepte qu'à condition d'être placé sous vos ordres. Nous y consentons. D'autre part, vous aviez offert votre démission à M. le préfet de police qui l'a acceptée. Cette acceptation sera donc, pour le moment, réservée. Maintenant, M. Parr, « dites-vous bien, » continua l'homme d'État en appuyant sur ces mots, « pénétrez-vous bien de cette idée qu'il est absolument, entièrement impossible de prendre la demande de ces malfaiteurs en considération. Ce serait la négation de toute loi, l'abdication de toute autorité. Nous comptons donc sur vous pour assurer la sécurité entière de tous les membres du Parlement menacés. Toute votre carrière est en jeu. »
Le chef de la sûreté se leva et dit
« Je garantis en tout cas qu'aucun membre de gouvernement ne sera attaqué. Mais il est encore impossible de promettre l'arrestation de l'individu qui s'appelle Cercle Rouge. Je suppose, reprit le Premier ministre, que le nommé Egitt, dont parle le document, a été tué. Malheureusement, oui,
répondit Yel. Monsieur Ekit a été assassiné en cours de route, en rentrant hier soir chez lui, à Marsden.
C'est déplorable, déplorable,
fit le chef du gouvernement en hochant la tête.
Une véritable orgie de meurtres et d'attentats, et qui ne semble pas close.
En sortant, les deux détectives se trouvèrent au milieu d'un grand rassemblement de journalistes et de curieux qui attendaient les résultats de la délibération du cabinet. L'affaire du cercle rouge passionnait tous les esprits. Yel fut reconnu et acclamé, mais Parr, à sa grande satisfaction, passa complètement inaperçu. Talia Drummond lisait attentivement un journal lorsque Derrick Yell rentra dans son bureau. Le détective remarqua qu'elle se hâtait de repousser le journal et de se remettre à sa machine, comme si elle était prise en faute.
« Eh bien, Miss Drummond, dit-il, que pensez-vous de ce dernier exploit du cercle ?»«
C'est colossal, répondit-elle. Et par certains côtés, admirable.
Je ne vois pas ce qu'il y a d'admirable, dit Yel gravement. Vous avez une assez bizarre façon d'envisager les choses.
Il s'arrêta sur le seuil de son bureau personnel et regarda longuement la jeune fille, d'un air scrutateur. Elle ne baissa pas les yeux.
Vous devez être contente de ne plus avoir à envoyer de communication à Monsieur Johnson de Mildred Street, reprit-il.
Elle ne répondit pas. Au bout d'un instant, il revint.
Il est probable que je vais avoir mon bureau à la préfecture même. Et j'ai idée que l'atmosphère de la maison ne vous conviendrait pas. Je vous laisserai donc ici et vous confierai les affaires courantes. « Vous êtes-vous chargé de découvrir et d'arrêter le cercle rouge ?»
Il secoua la tête.
« Monsieur Parr garde la direction de l'enquête, » répondit-il. « Mais je dois le seconder. »
Il ne fit plus d'allusion à ses nouvelles fonctions, et la matinée fut consacrée à la besogne courante. Vers midi, il sortit et annonça qu'il ne reviendrait pas avant le lendemain. Quelques instants après son départ, la sonnerie du téléphone retentit. Et Talia, reconnaissant la voix qui lui parlait, manqua de laisser choir le récepteur.
« Oui, c'est moi, » dit-elle. « Bonjour, monsieur Bernmore.
Monsieur Yel est-il là ? » demanda Jack.
« Il vient de sortir et ne reviendra pas au bureau aujourd'hui. » Mais s'il s'agit d'une communication importante, je saurai où l'atteindre.
Elle assurait sa voix de son mieux.
Je ne sais pas si c'est réellement important ou non, dit Jack. Mais voici. En classant ce matin des papiers ayant appartenu à mon père, travail bien triste entre parenthèses, j'ai trouvé toute une liasse de documents relatifs à Marle.
À Marle ? Félix Marle ?
Oui, sans doute mon pauvre père en savait bien plus sur lui que nous ne nous imaginions. Marle avait été en prison. Savait-on cela ?
On l'avait deviné, je crois, répondit Talia.
Mon père faisait toujours une enquête sur les gens avec qui il pensait avoir affaire. Et ces documents émanent d'une agence française. Il en résulte que c'était un joli gredin. Et je m'étonne que mon père ait accepté de faire affaire avec ce gibier de potence. Une des plus curieuses pièces de cette liasse est une enveloppe sur laquelle est inscrit « Photographie de l'exécution ». Elle est encore cachetée et scellée aux initiales de l'Agence française de renseignement. Il semble que mon père n'a pas eu la curiosité de l'ouvrir.
« Voulez-vous me faire une faveur ? » dit alors la jeune fille.
d'une telle voix implorante et émue que Jack s'étonna.
Qu'avez-vous ?
Dit-il.
Mais certainement, je suis à votre entière disposition, vous le savez bien.
Eh bien, n'ouvrez pas cette enveloppe,
reprit Talia d'une voix plus ferme et plus vive.
Mettez en lieu sûr tous ces papiers relatifs à Marle. Voulez-vous me le promettre ?
Assurément, je vous le promets.
Mais quelle drôle de requête ! En avez-vous déjà parlé à quelqu'un ?
J'ai envoyé une note là-dessus à Monsieur Parr.
Il l'entendit pousser une exclamation de regret.
Enfin, dit-elle,
me promettez-vous de n'en parler à personne d'autre, particulièrement de la photographie ?
Oui, oui.
Voulez-vous que je vous l'envoie ?
Non, non, ne faites pas cela.
Là-dessus, elle raccrocha brusquement le récepteur. Elle demeura un long moment le souffle court, comme vivement émue, puis mit son chapeau, ferma le bureau à clé et alla déjeuner.